sous les ténèbres ternies de brume et barbouillées de fumée qu'allait dissiper le petit jour. La chaussée déserte du pont Riquet paraissait souffrir des premiers froids de l'automne. Les pavés couverts de rosée gardaient les traces des véhicules de la nuit, comme de longues balafres sur un corps meurtri. Plus bas, de part et d'autre des garde-fous, s'animaient parfois des corps obscurs ou rougeoyants. Des tourbillons de vapeur s'échappaient tout à coup de gueules jusque-là obscures et muettes pour venir s'écraser contre le tablier du pont. Puis ils se redressaient, faisaient irruption à travers les hautes grilles à fer de lance-fleurs de l'Isée défendant l'approche du vide, inondaient un instant la chaussée d'un trottoir à l'autre, avant de se diviser en volutes qui s'évaporaient. Comme un jonc, tandis qu'elles retombaient sur le sol. C'était l'heure où les locomotives de manœuvre accéléraient leur va-et-vient le long des halles de Pajol, où la cavalerie légère de la banlieue commençait de se mettre en pression et de s'agiter sur les voies du dépôt. Du côté de la ville, 8 feux rouges, par un groupe de 2, montaient la garde à l'entrée de la gare. Dressés perpendiculairement aux lignes devant le pont du département, ils eussent volontiers fait penser à des prunelles de fauves fixées sur leur proie. Plus loin, les rails reflétaient confusément les faisceaux d'autres feux rouges cachés par les tabliers et les voûtes des ponts. Le long des voies principales, les bâtiments du dépôt, masses sombres piquées de lumière, s'alignaient parmi les locomotives immobiles, fumantes ou froides. Parfois, les machines s'arrêtaient de tout sauter, leurs purgeurs de siffler, les rames cessaient de cahoter, les freins de grincer, les tampons de se heurter l'un après l'autre le long du même convoi dont le coucou venait de s'immobiliser devant un signal à l'arrêt. On entendait alors monter de l'atelier le martèlement d'un compresseur auquel s'ajoutait la complainte uniforme et grinçante d'un tour à roue. En faisant volte-face sur le pont pour porter son regard au loin, du côté de la banlieue, on était d'abord saisi par la multitude des feux qui émaillaient le secteur de plus en plus large du dépôt, des voies et des raccordements desservant les usines et les entrepôts avoisinants. Les blancs étaient les plus nombreux, mais quelconques, sans éclat de simple clarté qui se diffusait dans tous sens pour guider les âmes à terre. Ces deux couleurs, au contraire, dardaient tous leurs faisceaux dans la même direction parallèle au vent. Les rouges isolés ou par deux, violents, sanglants, et qui seraient devenus des yeux terrifiants si, au lieu de les apercevoir de loin, à travers les grilles du pont, on les avait vus surgir quelque part devant soi. Cantonnés aux zones latérales, ainsi que des subalternes dans ce cortège lumineux, les violets faisaient figure de parents pauvres, mais les verts resplendissaient comme de vivantes émeraudes, signaux de la voie libre et des larges espaces à dévorer. Lorsque l'œil s'était accoutumé à cette débauche de couleurs, il distinguait une succession d'ombres des tas de charbon, des cubes de briquettes, la masse trapue du toboggan et, au-delà des lueurs de la ville, énorme, se dessinant à peine sur le ciel du nord, le gazomètre de la Villette. Tout autour, Paris s'éveillait. Du pont, on embrassait les mornes quartiers de l'Est encore engourdis d'un sommeil tardif et troublé par le grondement des trains et les coups de sifflet brefs ou répétés, nerveux ou plaintifs, se répandant de tranchée à tranchée, de viaduc à viaduc, tout autour de la ville. Quelques heures plus tard, l'éclat des feux aurait disparu sous le flux du grand jour. Les bruits des locomotives et des trains auraient fondu dans la rumeur de la cité. Mais pour l'instant, la vie se concentrer encore là-dessous, sur un plan inférieur, à quelques pieds plus bas que le niveau des rues.